La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 13 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Au micro, Camille Grodidi avec Anne Arbetson pour Le Monde Aujourd'hui. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Le Tchad ferme ses frontières communes avec la République centrafricaine alors que le Premier ministre centrafricain présente sa feuille de route.
André Nzapayeke a annoncé que le gouvernement sera réaménagé dans les prochains jours. En présentant sa feuille de route au Conseil national de transition, il a affirmé que l'objectif principal sera la restauration de la sécurité.
Darina Naidoo nous en dira davantage. L'armée malienne se rééquipe.
Avec la guerre au nord et l'occupation djihadiste, l'armée malienne a perdu beaucoup d'armes et de matériel. Pour les remplacer, le gouvernement se voit dans l'obligation de faire de nouveaux achats.
On suivra un reportage de notre correspondant Kassim Traoré et de nombreux gouvernements ont recours à la torture systématique à grande échelle, déplore l'ONG Amnesty International. Et bien sûr, on rejoindra Bagassi Koura pour l'actualité sportive et Roger Muntou pour la musique. Mais tout d'abord, le journal. La secte islamiste Boko Haram a diffusé lundi une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme étant des lycéennes nigérianes enlevées en avril dans le nord-est du pays. La Maison-Blanche a déclaré avoir visionné la vidéo dont elle ne conteste pas l'authenticité. Selon le porte-parole Jay Carney, les experts du renseignement l'étudient pour tenter de déterminer où les jeunes filles seraient cachées. Les États-Unis fournissent une aide au Nigeria en matière de renseignement et de surveillance, a-t-il rappelé.
Dans la vidéo diffusée par Boko Haram, les jeunes filles sont couvertes de la tête aux pieds de hijab noir ou gris, tenant le Coran et récitant des prières dans une région rurale non identifiée. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a affirmé avoir libéré les jeunes filles en les convertissant à l'islam. « Je jure devant Dieu Tout-Puissant que vous ne les reverrez pas jusqu'à ce que vous ayez libéré ceux de nos gens que vous avez capturés », a-t-il déclaré. Le gouvernement nigérian a incarcéré des centaines de membres présumés de Boko Haram.
Le Tchad a fermé ses frontières communes avec la République centrafricaine, a indiqué lundi le gouvernement sur le site internet de la présidence. À Bangui même, le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke a présenté sa feuille de route devant le Parlement provisoire dans un contexte de violence intercommunautaire. Darina Naidoo.
André Nzapayeke a annoncé que le gouvernement sera réaménagé dans les prochains jours. En présentant sa feuille de route au Conseil national de transition, il a affirmé que l'objectif principal sera la restauration de la sécurité, l'instauration de la paix et l'assistance humanitaire. Il s'agira également de créer les conditions à la tenue d'élections d'ici au début de 2015. Monsieur Nzapayeke a estimé que 1,4 milliard de dollars seront nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan, dont seulement 100 millions de dollars seront à la charge de l'État centrafricain et le reste bailleurs de fonds. Évoquant son bilan depuis 3 mois, le chef du gouvernement a estimé que la situation sécuritaire à Bangui s'améliore avec une baisse considérable des violences. Mais les attaques de groupes armés ces dernières semaines ont fait plusieurs dizaines de morts à l'intérieur du pays. En tournée depuis le 8 mai dans le sud du Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé la fermeture de plus de 1000 km de frontières avec la Centrafrique.
Nous revenons maintenant sur la tragédie de la bousculade survenue au terme du match de football opposant l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe au stade Tata Raphaël de Kinshasa dimanche. Le bilan provisoire est de 15 morts et d'une vingtaine de blessés. Le ministre de l'Information de la République démocratique du Congo, Lambert Mende, a estimé hier que la police s'est bien acquittée de sa tâche parce que personne n'a été tué par balle. Au micro de Nicolas Pinault, M. Mende revient sur les circonstances du drame.
Lorsque la police a commencé à disperser les personnes en tirant quelques gaz lacrymogènes. Il y a eu un mouvement de panique sur deux portes d'accès qui devaient permettre aux gens de sortir. Il y a eu une bousculade à ce niveau. Nous attendons les résultats d'une enquête pour annoncer une série de mesures afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments qui indiquent que la police ait fait autre chose que ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire séparer les fanatiques des deux camps qui étaient en train de s'en prendre les uns aux autres.
Est-ce que selon vous, les organisateurs de ce match sont en cause ?
Oui, parce qu'il leur appartient d'affiner l'encadrement des clubs sportifs qui sont engagés. Vous savez, c'est la Ligue nationale de football qui a en charge l'organisation et il y a un règlement pour la tenue des supporters, règlement qui s'impose à tous les clubs sportifs. Donc, les torts sont évidemment partagés. Nous attendons que la commission dépose son rapport pour que les conclusions soient tirées.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, joint à Kinshasa.
Le gouvernement du Soudan du Sud va reporter les élections présidentielles prévues en 2015 afin de se concentrer sur le processus de réconciliation. Le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré lundi que le gouvernement intérimaire restera au pouvoir jusqu'à ce que le vote ait lieu en 2017 ou 2018.
Le chef rebelle Riek Machar a rétorqué que si M. Kiir était vraiment engagé à forger un accord de paix global, il organiserait des élections l'an prochain comme prévu. Le conflit oppose les Dinka, le groupe ethnique dont M. Kiir est issu, à la tribu Nuer de M. Machar, son ancien vice-président. Les deux dirigeants se sont rencontrés vendredi en Éthiopie et ont signé un accord de paix, mais des combats ont éclaté ces derniers jours, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir violé la trêve.
Le chef de l'armée de résistance du Seigneur, Joseph Kony, qui est recherché par la Cour pénale internationale, pourrait se cacher dans une enclave contestée contrôlée par le Soudan qui borde la République centrafricaine et le Soudan du Sud, l'enclave de Kafiakingi. C'est ce qu'affirme le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon dans un nouveau rapport. Même si le gouvernement du Soudan indique qu'il n'y a pas d'éléments de la LRA dans l'enclave de Kafiakingi, des sources crédibles affirment que Joseph Kony et certains de ses principaux lieutenants sont récemment retournés dans la région pour y chercher refuge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une seconde personne est infectée par le coronavirus MERS ici aux États-Unis après un séjour en Arabie Saoudite. Des détails avec Bagassi Koura.
Le patient est en isolement depuis le 8 mai dans un hôpital d'Orlando, en Floride, et son état est satisfaisant selon le docteur Anne Chouchat, directrice du Centre national d'immunisation et des maladies respiratoires des États-Unis. Il s'agit d'un employé des services de santé qui est tombé malade pendant son vol entre l'Arabie Saoudite et Londres le 1er mai. Il s'est ensuite rendu à Boston, puis à Atlanta, avant sa destination finale à Orlando. Par précaution, les CDC, les Centres américains de contrôle des maladies, cherchent à contacter quelques 500 passagers ayant voyagé dans les mêmes avions que lui pour voir si quelqu'un aurait des symptômes. Mais les CDC rappellent que le virus MERS se transmet difficilement de personne à personne. Les États-Unis avaient annoncé le premier cas le 2 mai. Un homme qui était tombé malade peu après son retour d'Arabie Saoudite, hospitalisé dans l'Indiana, il est ressorti guéri après une semaine. L'Arabie Saoudite, le pays le plus touché, a fait savoir dimanche que le nombre de morts dans le royaume atteignait 142 sur 483 cas enregistrés depuis l'apparition du coronavirus en septembre 2012. L'Organisation mondiale de la santé tient aujourd'hui une réunion d'urgence sur le sujet.
En Ukraine, les séparatistes pro-russes de la région de Luhansk et de ont proclamé leur indépendance peu après que leurs voisins de Donetsk eurent fait pareil et demandé leur intégration à la Fédération de Russie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ces décisions sont consécutives au référendum controversé de dimanche dans les deux régions de l'Ukraine. Le leader séparatiste Valery Bolotov, cité par les médias russes, a déclaré que la République populaire autoproclamée de Luhansk commence une nouvelle vie sans les autorités de Kiev, qu'il accuse de fascisme et de nationalisme. Le chef séparatiste Denis Pouchelin a proclamé un peu plus tôt que la République populaire de Donetsk était désormais un État souverain et a demandé à faire partie de la Russie. Pouchelin n'exclut pas la possibilité de recourir à des forces de maintien de la paix dans la région si la situation s'aggrave. La Maison-Blanche a déclaré hier que les États-Unis ne reconnaissent pas les résultats des référendums de dimanche dans l'est de l'Ukraine. Jay Carney, le porte-parole, a également déclaré que Washington était déçu que Moscou n'ait pas utilisé son influence pour empêcher les votes d'avoir lieu.
Enfin, à 2 semaines du scrutin présidentiel en Égypte, Abdel Fattah al-Sissi tente de rassurer. Le favori à cette élection affirme qu'il protégera les libertés et respectera la Constitution. Nicolas Pinault.
Lors d'une rencontre lundi avec des intellectuels égyptiens, l'ancien chef de l'armée a déclaré que l'avenir des libertés et de la démocratie est protégé par la Constitution approuvée par le peuple. Le maréchal à la retraite a tenté de rassurer ses interlocuteurs alors que quelques semaines plus tôt, il avait affirmé que parler de démocratie ne devait pas primer sur la sécurité nationale. Surfant sur une cote de popularité inégalée, Al-Sissi est un farouche adversaire des Frères musulmans. Cette organisation a porté au pouvoir le seul président égyptien démocratiquement élu, mais aujourd'hui déchu, Mohamed Morsi. Malgré les contestations de la communauté internationale, la répression féroce contre les Frères musulmans s'est traduite par des milliers de personnes sous les barreaux et des centaines de condamnations à mort. C'est dans ce contexte qu'Abdel Fattah al-Sissi est donné grand vainqueur du prochain scrutin présidentiel. Un seul adversaire sera face à lui, le leader de gauche, Hamdine Sabahit.
Merci Anna Watson, on vous retrouve en fin d'émission. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. L'armée malienne commence à se doter en armes et matériel. Ce lundi 12 mai 2014, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali est allé inspecter la réception et la distribution du matériel et des armes aux militaires maliens. C'était au niveau de l'aéroport de Bamako-Sénou, signale Kassim Traoré.
Avec la guerre au nord et l'occupation djihadiste, l'armée malienne a perdu beaucoup d'armes et de matériel. Pour les remplacer, le gouvernement se voit dans l'obligation de faire de nouveaux achats. Soumeilou Boubey Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali.
Nous avons un théâtre qui va de Nara à Tessalit. C'est une chaîne logistique de 2660 km. Dans des zones où il n'y a pas d'eau, donc nous avons été obligés d'acquérir beaucoup de citernes pour à la fois aller puiser de l'eau souvent sur des distances importantes et les mettre à la disposition des hommes pour qu'ils puissent les garder sur une certaine période. Ce sont des zones extrêmement difficiles.
En plus des citernes qui transportent de l'eau sur les théâtres d'opération, il y a aussi des porte-chars.
Et nous avons aussi acquis des plateformes qui nous permettront de transporter mieux qu'auparavant nos engins lourds sur les terrains. Type BRDM et autres. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit récemment, c'est aussi important pour nous de donner des armes et des munitions à nos hommes que de les ravitailler aussi en eau, en carburant, en rations alimentaires et en ravitaillement de toutes sortes.
Après les citernes et les porte-chars, il y aura des engins lourds et d'autres armes. Le tout, selon les ministres, a été acheté sur fonds propres de l'État malien. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au micro, Camille Gros-Didier pour Le Monde Aujourd'hui, il est 5h43, temps universel. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui. Les gouvernements du monde n'ont pas tenu leurs promesses contenues dans la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture, déplore Amnesty International. De nombreux gouvernements ont recours à la torture systématique à grande échelle. Les précisions de Chérubin d'Orsil.
À Port Harcourt, sa ville, le Nigérian Justin Ijeoma est connu sous le nom de Monsieur Droits Humains. Il soutient de nombreuses personnes arrêtées par les autorités. Les plus jeunes et les plus pauvres sont victimes de la brutalité policière et de la torture, affirme Ijeoma, qui a décrit le traitement qu'aurait subi un homme accusé d'enlèvement.
He was handcuffed. Also, his two legs was handcuffed.
On lui a passé les menottes aux poignets, puis aux chevilles. Ensuite, ses jambes et ses bras ont été attachés ensemble. Il a été suspendu à une barre de fer et le plat de la machette a été utilisé pour frapper son dos. Les autorités nigérianes ont démenti ces allégations. Cela fait 3 décennies que 155 pays ont signé la Convention onusienne de 1984 contre la torture. Mais nombre de ces pays ignorent leurs promesses de l'époque, dit Michael Bushnek, directeur d'Amnesty International pour le droit international et la politique. Dans beaucoup de cas, nous parlons d'un usage systématique de la torture dans ces pays, si bien qu'il y a une réelle divergence entre l'engagement sur le papier et la réalité. Selon Michael Bochnek, trois mesures de base doivent être prises par les pays concernés pour s'attaquer au problème de la torture.
Conducting effective medical investigations.
Mener des enquêtes médicales effectives, assurer que les avocats puissent visiter leurs clients en détention et le faire immédiatement, veiller à ce que les membres de famille aient accès à leurs parents détenus. Au Brésil, 80% des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête internationale commanditée par Amnesty ont dit redouter d'être torturées par la police, ce qui vaut à ce pays d'être le plus mal classé des 21 où l'enquête a été menée. Au Nigeria, le taux est de 50%. À nouveau, l'activiste nigérian Justin Idioma. Aucun des policiers qui se livrent à ces actes n'est traduit en justice. Le niveau d'impunité au Nigeria et dans certaines parties de l'Afrique est en train d'échapper à tout contrôle, souligne Justin Idioma. Selon l'enquête d'Amnesty International, 3 personnes sur 4 en Chine et en Inde ont dit que la torture est parfois nécessaire à la protection du public. En Grèce, 1 personne sur 10 est de cet avis.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi. Tout sur Boko Haram. Le sort des jeunes filles enlevées par le groupe islamiste nigérian continue de mobiliser la planète. Au-delà du kidnapping, beaucoup de questions demeurent. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Camille Grodetti avec vous. Un nouveau World Trade Center s'ouvrira bientôt sur le site de l'original, détruit lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York. On s'attend à ce que la construction à 3 pâtés de maisons d'un centre communautaire islamique, d'un musée dédié à l'islam et d'une mosquée, bien qu'il s'agisse d'une version plus modeste des projets qui avaient provoqué une levée de boucliers, elle n'en est pas moins controversée. Michel Joseph.
Selon l'imam Talib Abdul Rashid, président du Conseil du leadership islamique, le projet doit refléter toute l'histoire de l'islam.
Islam itself.
L'islam fait partie des 3 traditions abrahamiques. Et puis, c'est une discussion et un portrait correct des musulmans en Amérique en général et à New York en particulier. En 2010, il y avait de grandes manifestations devant le site où l'on envisageait de construire un centre communautaire islamique et une mosquée de 15 étages alors. Parmi les protestataires, des proches des victimes du 11 septembre qui trouvaient que c'était manquer de sensibilité si près de Ground Zero.
We're wide open to religious freedom, but not in this spot.
Nous sommes très ouverts à la liberté religieuse, mais pas sur cet endroit. Le nouveau projet pose toujours problème pour certains. Pamela Geller est présidente de l'American Freedom Defense Initiative.
Honestly, what we need is more candor.
Pour ne rien vous cacher, nous avons besoin de franchise au sujet du djihad et de la doctrine djihadiste. Est-ce que ce musée va parler du total de 1400 années de guerre sainte, appropriation de terres, annihilation culturelle et esclavagisme? Je ne le pense pas. Je pense qu'on va escamoter le débat et que c'est inapproprié pour Ground Zero. Qu'on nous montre le projet, demande Galler. Alexandra Bain, qui enseigne la religion, a eu un briefing sur ces projets en compagnie d'étudiants et de collègues venus du Canada. Les musulmans sont en Amérique depuis l'arrivée des anciens esclaves. Ils font partie des premiers Américains et continuent d'être une partie importante de la culture américaine. Les responsables du projet n'ont pas encore révélé tous ses détails ni ses sources de financement. Mais ils soulignent que le centre, le musée et la mosquée seront dédiés à l'exploration de l'islam, son art et sa culture.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Camille Grodetti avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui, il est 5h49, temps universel. Toujours concernant les États-Unis, le député républicain Michael Grimm de New York fait face à plusieurs accusations de crimes fédéraux. Timothée Tonangmai.
Avant son élection en 2010 au Congrès, Grimm a été, de 2007 à 2010, propriétaire d'un restaurant new-yorkais. Selon la justice fédérale, les 20 chefs d'accusation retenus contre lui sont liés à sa gestion de cet établissement. Michael Grimm se défend et a plaidé non coupable. Cette chasse aux sorcières politiques visait à accomplir deux choses. Avant tout, assassiner mon caractère et ensuite me démettre de mes fonctions. Loretta Lynch, une représentante de la justice fédérale, a détaillé les actes de fraude et de corruption dont est accusé Grimm. Il est accusé d'entrave à la justice, de blocage de l'action du fisc, de complot en vue de frauder les États-Unis, de fausses déclarations d'impôts, de fraude postale, fraude électronique, de fraude en soins de santé, de parjure, d'obstruction d'une procédure officielle et d'embauche de travailleurs sans papier. Le gouvernement fédéral accuse notamment le député Michael Grimm d'avoir dissimulé plus d'un million de dollars encaissés dans son restaurant. Par ailleurs, la journaliste Alexandra Jaffe dit que Grimm fait l'objet d'une autre enquête liée à la levée de fonds, affaire dans laquelle serait impliqué un rabbin. Ce rabbin et ses partisans ont aidé Grimm à lever un demi-million de dollars. Selon certaines allégations, ces fonds auraient été mobilisés de manière irrégulière avec peut-être des ressortissants étrangers à qui il est interdit de donner de l'argent à un député américain. Et cette enquête se poursuit. Dans le cadre de cette enquête, l'ancienne amie de Grimm, Diana Durant, a plaidé non coupable à trois chefs d'accusation d'activités financières illégales en rapport avec la campagne électorale 2010 du député new-yorkais. Ce dernier refuse de démissionner et se jure de briguer un autre mandat au mois de novembre. Dans une récente publication, le directeur adjoint du FBI pour New York, George Venizelos, a accusé le député Grimm, un ancien agent du FBI, d'avoir violé la devise du FBI « fidélité, courage et intégrité » et de l'avoir remplacé par fraude, parjure et obstruction.
On enchaîne avec les sports en compagnie de Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Alors, on continue de parler de cette tragédie en République démocratique du Congo.
Oui, ce drame qui a eu lieu dimanche au stade Tata Raphaël. Au moins une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés à l'issue du match de football qui a opposé l'AS Vita Club au tout-puissant Mazembe. Les autorités congolaises mettent en cause des groupes de supporters agissant, je cite, en véritable milice.
Et vous avez les résultats complets des matchs allés de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors.
Oui, le Mozambique a été battu par la Zambie 2-0. Le Malawi et la RDC ont fait match nul, un but partout. La Sierra Leone est tombée face au Ghana, 2-0. La Libye et la Tunisie ont fait match nul, un but partout. L'Éthiopie a été battue par l'Afrique du Sud, 2-0. Victoire du Cameroun, 1-0 sur le Burundi. Le Gabon et le Rwanda ont fait match nul, 0-0. Le Congo a battu le Bénin, 2-1. Le Togo est tombé face au Maroc, 2-0. Le Libéria a battu la Côte d'Ivoire, 1-0. Le Soudan a été écrasé par l'Égypte, 3-0. Et le Lesotho a battu l'Angola, 3-1. Enfin, le Nigeria a écrasé la Tanzanie, 2-0.
Parlons maintenant de la Coupe du Monde.
Oui, le sélectionneur de l'Algérie, Vaïd Khalilhodžić, a communiqué lundi une présélection de 30 joueurs en vue du Mondial 2014. On note les présences des milieux offensifs Riyad Boudebouz et Riyad Mahrez. Quant au sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, il a aussi présenté une liste de 26 joueurs qui participeront à la préparation de la Coupe du Monde au Brésil. Bien sûr, les frères Ayou, André et Jordan font leur retour. Et Camille, pour terminer, la NBA suite des demi-finales.
Le Heat de Miami, double tenant du titre NBA, a triomphé 102-96 lundi soir face aux Brooklyn Nets. Et dans l'autre match de la soirée, les San Antonio Spurs se sont inclinés dans leur match de demi-finale de conférence face aux Portland Trail Blazers sur le score de 103-92.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain, Dembaba ou Samuel Eto'o? Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
On passe à la page musicale avec Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Camille, de la chorale à la cathédrale de Ouagadougou à Abidjan, hein, en passant par Bamako et plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, Martin Terry, l'enfant de Imasgo, hein, une localité située dans les environs de Koudougou à environ 100 km de Ouagadougou au Burkina Faso, poursuit sa carrière musicale présentement aux États-Unis d'Amérique. Nous l'avons eu au téléphone.
Ah oui, bon, écoute, ça fait un bout de temps que je suis aux États-Unis, donc l'album est sorti, en 2013 au Burkina Faso où j'y étais. Et maintenant, je suis là personnellement puisque je suis en train de travailler avec Sidi Bébé pour la sortie de l'album au niveau des États-Unis.
Alors Martin, nous allons écouter Les Îles Canaries.
Les Îles Canaries, c'est un morceau dédié à Madou, un monsieur que j'ai rencontré puisque moi aussi, dans les années 90, j'ai essayé de passer par les Îles Canaries pour rejoindre la zone d'Europe. Et malheureusement, j'ai rencontré un Guinéen, un étudiant guinéen qui était en quête de travail chez lui et qui n'a pas marché, qui s'appelait Mamadou. Et lui, il a eu la chance d'abord, avant moi, de prendre le bateau pour l'Europe, l'Espagne, l'Italie. Et voilà, et le bateau a eu un naufrage au niveau de l'île Canaries et il est décédé. Et voilà, cette chanson, Île Canaries, c'est une chanson dédiée à Amadou et à tous ces Africains qui, chaque jour, brandissent les eaux pour voilà, être de l'autre côté, croyant que c'est l'Eldorado, l'Occident. L'île Canaries s'est devenue comme une prison, et parce que c'était un camp de rétention, mais malheureusement c'est des prisons et que des milliers d'Africains sont basés là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent plus repartir en Afrique, ils ne peuvent pas avancer, aller en Occident. Donc cette chanson est dédiée à tous ces guerriers.
Parce qu'il n'en pouvait plus, diplômé dans ses états corrompus. Il est parti parce qu'il n'en voulait plus être accroché à ses pouvoirs fourbus.
Martin Terry, Les Îles Canaries, merci Roger.
Happy Monday Camille et un grand coucou à tous les amis qui écoutent le RM Show à Ouagadougou.
Vous retrouverez Roger Muntu dans le RM Show ce soir à 20h, temps universel.
Parce qu'il n'en voulait plus être accroché à ses pouvoirs. Il a voulu partir sur Paris, où peut-être il trouverait meilleure vie. Yeah. Malheureusement, comme pas choisi, sa vie s'arrêta aux îles Canaries. Yeah. Il s'appelait solution.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui en direct du studio 13 de la voix de l'Amérique à Washington. On termine avec un rappel des titres avec Anne Albertson.
La Maison Blanche a visionné la vidéo diffusée par Boko Haram et montrant les lycéennes enlevées au Nigeria en avril. Elle rappelle que le gouvernement américain appuie Abuja dans ses efforts pour les retrouver. Le Tchad a fermé ses frontières communes avec la République centrafricaine, a indiqué lundi le gouvernement de N'Djamena sur le site internet de la présidence. À Bangui, le premier ministre centrafricain, André Nzapayeke, a présenté lundi sa feuille de route devant le Parlement provisoire dans un contexte de violence intercommunautaire. Le gouvernement du Soudan du Sud va reporter les élections présidentielles prévues en 2015 afin de se concentrer, dit-il, sur le processus de réconciliation. Enfin, en Ukraine, les séparatistes pro-russes de la région de Louhansk ont proclamé leur indépendance. Imitant leurs voisins de Donetsk, ils ont demandé leur intégration à la Fédération de Russie.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, présentée par Camille Grodidier, Anna Hudson. Merci à toute la rédaction, chers auditeurs, très bonne journée et à bientôt sur La Voix de l'Amérique.